Bonjour, vous savez qu'à l'Institut des Libertés, de temps en temps, on reçoit des gens qui nous ont donné envie de les recevoir parce qu'ils ont écrit des livres ou eu des idées ou écrit des articles. Vous savez, ça peut arriver. Et là, j'en reçois un nouveau qui s'appelle Marc Hainaut, que je connais depuis longtemps parce que ça fait un certain temps qu'on le voit apparaître de temps en temps. Donc, vous avez fait des études de sciences politiques,
Absolument.
et puis après, vous êtes venu à Paris, vous êtes devenu journaliste. Chez Boulevard Voltaire, c'est là que je vous avais rencontré
Absolument.
d'ailleurs. Et puis, vous êtes maintenant à l'heure actuelle.
Absolument, depuis 2 ans et demi, oui.
Vous me semblez avoir un biais que le France Inter.
Bizarrement, bizarrement, mon CV n'a pas intéressé Libération.
Ni
Je peine
Libération,
à
ni Le
comprendre
Monde,
pourquoi.
ni le.
Non,
Non.
non, mais très heureux chez Valeurs Actuelles.
Très heureux chez Valeurs Actuelles, vous avez bien raison. Puis en plus, il y a pas mal de gens jeunes chez Valeurs Actuelles, non?
C'est une rédaction assez jeune, mais de toute façon, comme les idées de droite sont plutôt du côté de l'avenir, fatalement, on attire beaucoup les jeunes générations.
Ben oui, c'est faut dire qu'avec les conneries commencent à être les anciens. Donc, vous avez publié un livre qui s'appelle L'ampleur des dégâts, de vous montrer une espèce d'hologramme de Monsieur notre président devant c'est l'Élysée qui
C'est
est en
l'Élysée,
ruine, et
absolument.
l'Élysée qui est en ruine, d'où
L'Élysée
s'écroule
passablement lézardée, oui,
passablement lézardée.
pour rester euphémiste.
2017-2026, ça va faire 10 ans.
Ça va faire pas, pas, ça fera 10 ans au soir de son départ, absolument, de l'Élysée, oui.
C'est long, hein.
Ça a duré longtemps, oui. Oui,
C'est 10 ans. Moi, je me
oui.
souviens de
Oui.
Madame Thatcher qu'au bout de 10 ans, j'étais en Angleterre, les caciques du parti étaient venus le voir en lui disant Margaret, 10 ans, c'est trop long. Et elle était partie gentiment sans rien demander à personne parce qu'elle avait le sens de l'État. Lui, par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir le mettre à la porte. Je sais pas comment, je sais même pas s'il voudra s'en aller
Mais
une fois
pardon.
qu'il sera là, qu'il sera plus au pouvoir, quoi.
Mais c'est vrai que l'idée de son départ, elle avait été demandée uniquement par la France insoumise à l'époque, l'idée de sa destitution, et puis progressivement, on a vu la petite musique se décaler vers le centre. Le Rassemblement national a demandé sa démission, non pas sa destitution, mais sa démission. Et on a entendu récemment Édouard Philippe l'a demandé lui aussi, Édouard Philippe qui a pourtant été son premier Premier ministre, et Gabriel Attal qui, sans appeler à sa démission, a confessé qu'il ne comprenait plus les décisions du président de la République. Donc il y a vraiment cette idée
Alors la question
d'un
que j'aimerais
Emmanuel Macron
poser,
isolé,
allez,
oui.
c'est dommage, Attal n'est pas là, mais j'aimerais comprendre quelle décision du président de la République Attal a comprise. Parce que moi, en 10 ans, j'ai jamais compris une seule de ses décisions, elles ont toujours été désastreuses. C'est ce que d'ailleurs vous montrez très bien dans votre livre, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, il y a eu cette séquence, mais qui est très récente d'ailleurs. C'était au moment de la suspension de la réforme des retraites. Je pense que tout le monde s'en souvient, c'était il n'y a pas très longtemps. Où cette réforme des retraites, qui était le sacro-saint artefact intouchable, la seule réforme du deuxième quinquennat, eh bien, on a vu, donc, pour éviter une dissolution et donc pour sauver son poste, ses postes, tout simplement, le Bloc central a accepté la suspension de cette réforme pour laquelle ils ont tant bataillé. Je rappelle qu'Elisabeth Borne, ça lui a coûté Matignon quand même, cette réforme des retraites. Et eh bien, on a entendu Gabriel Attal expliquer en consigne de vote, en expliquant qu'il ne s'opposera pas à la suspension, et en disant de toute façon, cette réforme est déjà obsolète en l'état, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire quelqu'un qui a été ministre des Comptes publics, Premier ministre, puis chef du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, admet, mais dans un éclair de lucidité, peut-être même de dépit, dire de
Vous
toute façon,
savez,
cette réforme n'avait aucun intérêt.
il suffit de regarder la pyramide des âges en France, de voir l'état des dégâts déjà sur le déficit public des retraites. Je crois que c'est 14% du PIB
Absolument
maintenant.
400 milliards d'euros les retraites,
C'est
le poids
400
des
milliards
retraites en
d'euros.
France.
Et
Ouais.
de voir que ça va augmenter automatiquement de quelques milliards chaque année, ne serait-ce que parce qu'il y en a. Puis en plus, ces salopards, ils vivent de plus en plus longtemps. Remarquez, on vient de faire la loi sur l'euthanasie, ça va peut-être arranger les choses.
Alors, il y a la loi sur l'euthanasie. Alors, il vit de plus en plus longtemps. Les mauvaises langues vous diront que ça commence à stasser un petit peu l'espérance de vie. En ce qui est vrai, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps en bonne santé.
Oui.
Et du coup, effectivement, ça pose effectivement la question de l'âge effectif du départ à la retraite. Mais si vous voulez qu'on parle des chiffres sur la retraite, évidemment, on les a. Il y a 40 ans, il y avait un retraité pour 4 cotisants. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Évidemment, la pyramide des âges fait que c'est intenable en l'état.
C'est intenable dans l'État. Et vous savez pourquoi celui qui avait inventé les retraites, c'était Bismarck au début, en Allemagne, il y a longtemps, hein.
Ah oui?
Oui, c'est lui qui avait inventé les retraites
Bah
parce qu'il
oui.
voulait faire un État social.
Et eh ben, le
Et
mal qu'il
vous
a
savez
porté à la
pourquoi
France.
le mal qu'il a fait à la France et au monde entier. Parce que la retraite, c'est une saloperie, mais on en parlera. Et vous savez pourquoi il avait mis à 60 ans?
Ah oui? Macron, Mitterrand est un Bismarckien qui.
Mais
J'ai
oui,
remarqué la réelle politique et Mitterrand, c'était assez efficace
il était
pour ça.
efficace. Mais il avait mis à 60 ans, il avait demandé à ses collaborateurs à quel âge mouraient les ouvriers, 60 ans, donc il l'avait mis à 60 ans.
Ouais.
Et là où ça s'est fait avoir, on s'est tous fait avoir, c'est on est passé de 60 à 80.
Et on est resté à 60
Et
ans.
maintenant, et on a, nous, on a tout fait pour le garder à 60 ans. C'est-à-dire qu'on va être, on doit être payé pendant 20 ans, on n'a rien à foutre.
C'est un peu ça l'idée. Alors après, mais c'est toujours pareil le débat de est-ce que quelqu'un qui a passé sa vie derrière son bureau, un travail administratif, peut partir à la retraite plus tard? Bien sûr que oui. Après, effectivement, moi j'entends très bien qu'un métallo qui a passé sa vie à l'usine à se
Mais il n'y
casser
en
le
a
dos ou à
plus.
l'agriculteur. Mais il y en a de moins en moins, mais c'est. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord.
On nous fait
Mais
toujours, c'est comme
c'est
quand
pour
on
ça
dit,
qu'il y a un sujet. Mais c'est.
il faut réduire le nombre de fonctionnaires. On me dit toujours, vous voulez moins d'infirmières, moins de professeurs et tout. Je leur dis, je veux pas de ça, je veux simplement qu'il y ait un peu moins d'administratifs dans les administrations locales, quoi.
Mais de toute façon, c'est un tabou. Et de fait, aujourd'hui, enfin, je pense que vous l'avez lu dans le livre et vous le saviez sûrement certainement, mais le poids des retraités, de toute façon, dans le vote, fait qu'on a des politiques qui sont totalement pris là-dedans. Je rappelle quand même que les retraités, ça fait partie des seules corporations, entre guillemets, dont les retraites sont revalorisées tous les ans, grâce à l'inflation. Ça coûte 6 ou 7 milliards par an à l'État. 6 ou 7 milliards, juste pour information, c'est 50 000 lits d'hôpitaux psychiatriques. Dans un pays où la psychiatrie est en déshérence totale, ou accessoirement 500 000 OQTF forcés, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les ans, on rajoute 7 milliards d'euros aux retraités. Je rappelle qu'un député Renaissance, Guillaume Kasbarian, peut-être un des seuls véritables libéraux de la Macronie, avait demandé à supprimer l'abattement fiscal des retraités de 10%. Ça lui était refusé, évidemment pour des raisons électoralistes, mais avec cet argument totalement hallucinant qui était de dire, vous comprenez, ça va pénaliser les petites retraites. Or, les abattements, c'est pour des gens qui sont imposables, et donc ça ne touche pas les petits retraités. Enfin, si vous voulez, il y a cette espèce d'incapacité d'Emmanuel Macron et de ses partisans, finalement, à
Mais
appréhender
du
ce
système
sujet.
politique dans son ensemble,
Oui, mais
si j'ose
Macron n'a
dire.
rien changé là-dessus. Il a
Non, il n'a
été dans
rien
la
changé
continuité
là-dessus.
de ses
Donc
prédécesseurs.
on vit quand même aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la société du mensonge. Il est urgent que les citoyens ne soient pas tenus au courant. Il faut
Absolument.
pour qu'on puisse les enfler. Moi, quand de temps en temps, je suis un chaud partisan de la démocratie directe, et je dis à mes amis politiques, il faudrait quand même redonner la parole au souverain, parce que c'est lui qui doit trancher, en fin de parcours. Et ils me disent tous, mais Charles, tu n'y penses pas, ils sont complètement incompétents. Et donc, ces gens-là qui se prétendent démocrates utilisent l'argument de l'incompétence, et donc l'argument de leur compétence à eux, pour empêcher les gens de s'exprimer. Donc, s'ils étaient vraiment démocrates, ils ne pourraient pas dire que le peuple est crétin.
Oui, mais d'ailleurs, le pire, c'est que cet argument de l'incompétence. C'est à moi pour tout vous dire. En plus, Emmanuel Macron, je le connais bien entre guillemets, puisque j'ai véritablement commencé ma carrière journalistique au sens professionnel du terme, on va dire, avec son élection en 2017. On va dire pendant la campagne présidentielle. Et moi, je me rappelle très bien de ce débat d'entre-deux-tours où Marine Le Pen était catastrophique évidemment, mais où
Est-ce qu'elle
Emmanuel.
avait fait exprès d'être catastrophique?
Franchement, je pense pas.
Parce que j'ai toujours posé la question. Elle avait été tellement mauvaise que je me suis dit, mais elle a pas du tout envie d'être élue, quoi.
Je pense qu'elle est tombée face à quelqu'un et on en reviendra aussi parce que même si ça parle surtout du bilan, évidemment, la personnalité d'Emmanuel Macron, elle compte aussi dans ce bilan. Vous êtes face à quelqu'un qui est, à titre individuel, redoutablement séduisant et retors en matière de rhétorique. Moi, je me rappelle de cette phrase qu'il avait assénée à Marine Le Pen, vous allez aggraver la dette ou le déficit et ce sont nos enfants qui
Mais
paieront.
il n'en a pas.
Mais il n'en a pas, et surtout, non, mais surtout, cette accusation proférée en 2017 à l'encontre de Marine Le Pen, quand on voit l'état de la France aujourd'hui en 2026, on se dit, mais pardon, le seul, on va dire, je pense qu'une des seules raisons qui empêche le RN d'arriver au pouvoir aujourd'hui, c'est les accusations en amateurisme et en incompétence. Mais si vous voulez, quand ça vient de ce camp-là, quand ça vient de ces gens-là,
Ouais, c'est-à-dire que les gars qui ont fait les nains et qui vous expliquent qu'ils sont compétents, vous avez quand même un certain moment de doute. Parce que moi, bon, j'ai vécu une grosse partie de ma vie à l'étranger. Je peux vous dire que des ingénieurs français qui ont fait l'X, qui ont fait Centrale, qui ont fait des bonnes écoles, c'est pas héros, ou bien alors des gars qui ont fait HEC, vous en trouvez partout, des gars qui ont. Le seul haut cadre qui ne s'exporte pas, c'est l'énarque. Personne n'en veut nulle part.
Non, et d'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, ils sont embauchés
C'est
pour
assez.
leur carnet d'adresse,
Oui,
généralement,
mais le
et
carnet d'adresse, le français,
Ouais, bien sûr, non,
ça
mais tu.
n'intéresse personne, sauf si vous êtes General Electric, quoi. C'est quand vous voulez acheter une affaire en France, mais
Oui,
ça,
mais
c'est.
Emmanuel Macron a supprimé l'ENA, rappelez-vous.
Oui, là, c'est pour le n'exagérons rien. Il a en rien supprimé par exemple, l'inspection des finances est toujours là.
Non, il a créé l'école de la haute administration, ce qui est littéralement la même chose, hein, mais
Non, non, mais je veux dire, le vrai problème de la Ve République, c'est que c'est un animal de Debré. À la place de laisser les grands concours où il y avait le Conseil d'État, les affaires étrangères, vous faisiez les concours, vous étiez reçu, la Banque de France et puis l'inspection des finances. Bon, Comme ça, vous étiez reçu à un concours et puis ensuite vous détestiez tous les autres. Le mec de la semaine. Là, il a fait un concours où on note les gars du premier au dernier. Et donc maintenant, ils se connaissent tous ensemble. Ils savent qu'ils sont les chefs. Et donc, on a fait une vraie mafia. À la place d'avoir des tas de petits criminels comme ça qui faisaient l'homme de mal là où ils étaient, on a organisé toutes les criminels ensemble. Et ben, c'est maintenant, on a un criminel en chef qui s'appelle.
Oui,
Qui s'appelle les Macron.
mais là où Emmanuel Macron a fait encore pire que le système que vous venez de décrire, c'est quand il a dit, quand il a eu un petit peu les mots que vous avez dit en beaucoup plus policiers, bien évidemment, et c'était la justification pour supprimer l'ENA. Mais le pire, c'est qu'après avoir supprimé l'ENA, on en est revenu à un système où l'ENA c'était totalement imparfait, bien évidemment, c'est une école dont le but était totalement contestable, mais il y avait quand même il y avait une forme de méritocratie quand même.
Ouais.
C'était les mieux classés qui arrivent à certains postes. Et maintenant, avec la suppression de l'ENA, si vous voulez, par exemple, on voit Pierre Moscovici à la Cour des comptes, maintenant Amélie de Montchalin, les présidents de Cour des comptes, maintenant, ne sont plus obligés de nommer en fonction des classements des uns et des autres, c'est-à-dire que maintenant il y a une liberté totale, ils peuvent nommer absolument qui ils veulent, où ils veulent. Et si vous voulez, en luttant justement contre cette espèce d'entre-soi, ils en ont créé un encore pire qui dépend non plus d'une école, mais de la personnalité en place. Et Pierre Moscovici, il suffit de parcourir l'annuaire de la Cour des comptes, il y a des très bons articles sur Valeurs Actuelles dans Valeurs Actuelles sur le sujet d'ailleurs, pour voir à quel point, depuis des années, c'est un recasage en règle du PS et de tous
Bien
ses
sûr, on voit
amis
bien d'ailleurs le
politiques.
PS qui ne représente plus rien, 1,5 ou 2% des votes. Maintenant, il contrôle la Cour des comptes, le Conseil
Le Conseil
constitutionnel,
d'État.
le Conseil d'État. Donc, on
Et
voit
si vous
bien
allez dans
que
toutes les officines HLM, de trucs du logement,
vous les
etc.,
trouvez partout, quoi.
vous les retrouverez tout ça.
C'est ce que vous appelez les réseaux.
Ben oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a un peu un mystère, effectivement, sur cette espèce de météore qui est arrivé d'un seul coup, comme surgit de nulle part, qui est Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que si on doit lui donner une filiation politique, parce qu'il faut quand même essayer de le faire, on s'aperçoit que toute sa première équipe, c'était en 2017, on a l'impression que c'était il y a 15 ans, en réalité c'était hier, en fait c'était que des anciens Strauss-Kahniens, des Ismaël Emelian, des Sibeth Ndiaye, des Benjamin Griveaux, qui ont tous d'ailleurs totalement disparu depuis. C'était vraiment l'équipe de Dominique Strauss-Kahn, quoi. C'était ceux qui voulaient prendre leur revanche sur le François Hollande, sur François Hollande qui les avait, qui avait gouverné à leur place finalement en 2012. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, cette idée phare qu'avait Emmanuel Macron, qui était la suppression de la taxe d'habitation, qui a été une erreur et une faute absolument considérable, eh bien, c'était une des idées phares du programme présidentiel de Dominique Strauss-Kahn de 2011, si vous voulez. Donc, il y a une forme de filiation là-dessus. Et c'est peut-être d'ailleurs un des points communs qu'a Emmanuel Macron avec Dominique Strauss-Kahn dans l'absolu. C'est des gens qui n'ont jamais été socialistes, d'ailleurs, qui n'ont jamais été grand-chose et qui ont construit un petit peu leur carrière, un petit peu en fonction des événements, en faisant croire qu'ils avaient une ligne. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne parle pas de ligne, il parle d'un projet, mais où on s'aperçoit très vite, au bout de 9 ans d'expérience de pouvoir, qu'en réalité, il ne savait pas où il allait, qu'il n'y avait aucun plan, et que c'était vraiment une trajectoire individuelle censée amener son porteur le plus haut possible.
À mon avis, c'est qu'il était socialiste. Vous savez qui est le saint patron des socialistes?
Allez-y.
Le saint patron, c'est Christophe Colomb, parce que quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Quand il est arrivé, il savait pas où il était. Il a fait tout ça avec l'argent de quelqu'un d'autre.
Ouais, bah
donc.
Voilà. Bah c'est un peu ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je l'avais pas celle-là.
Donc, à mon avis, en tout cas, c'était certainement un macroniste. Donc, il était Christophe Colombien, Macron.
Il y avait quelque chose de macroniste. En tout cas, il laissait rien derrière lui, en tout cas.
Donc, vous voyez, on a un personnage étrange qui est arrivé de façon étrange, avec des soutiens que tout le monde connaît, et qui ensuite se sont fâchés avec lui et trouvent qu'il est... Mais sans présenter leurs excuses, moi, si vous voulez, j'aurais aimé que M. Attali et M. Meng disent « On est désolé d'avoir imposé ça à la France, on s'est trompé. À partir de maintenant, on va prendre notre retraite en Provence et vous n'entendrez plus parler de nous. » Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils font. Ils disent juste qu'il est très mauvais parce qu'il les a pas écoutés. Mais
non,
ça...
parce que les gens ont tellement envie d'entendre des gens dire du mal d'Emmanuel Macron qui si Alain Minc appelle en disant « Je veux dire du mal d'Emmanuel Macron », ça intéressera tout le monde, hélas. C'est le jeu.
Mais moi, je commencerai... On peut dire du mal des deux à la fois ou c'est interdit?
On peut dire du mal de tout le monde, hein, vous
on
savez.
On peut dire du mal des deux
chez
à la
vous
fois.
Quand vous dites exactement ce que vous dites exactement ce que vous voulez, Charles.
Oui, je m'en suis jamais privé. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais en principe, je dis tout ce qui me passe par la tête, je le dis. Donc vous avez ce personnage étrange qui arrive et qui met la France en son dessus dessous, qui la ruine très rapidement, qui est en train de la ruiner, qui a pris des décisions catastrophiques, qui aussi a littéralement vendu à l'encan toutes ses souverainetés, les unes après les autres. Maintenant, on est en train d'arriver à la souveraineté ultime qui est sur l'arme atomique. Donc ça ne peut pas vous empêcher, vous avez la trouille, parce que moi, vivant, je ne pense pas que... J'accepterais qu'un Allemand appuie sur le bouton nucléaire, quoi. Ça, c'est même pas dans le.
Non, ce serait difficilement. Au vu de l'histoire, ce serait assez inenvisageable. Mais d'ailleurs, cette mallette nucléaire, c'est une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle a tenu à ce que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, en disant, puisque ce sera cet homme-là qui aura entre les mains la capacité de rayer un pays d'une carte, voire d'entraîner la ruine de son propre pays, autant qu'il ait l'assentiment direct d'une majorité de Français. Le seul problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu par une majorité de Français en réalité. C'est toujours ça. C'est le drame des fronts républicains et de ces mécanismes-là.
Mais c'est le drame. Et donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui est complètement curieux dans le système français, c'est que quand un type est notoirement incompétent dans la plupart des démocraties, on trouve des moyens de le virer.
Mais nous sommes un régime présidentiel.
Oui, non, mais je veux dire, j'entends
Oui.
bien, mais quand je pense qu'il y a eu une majorité de Français qui l'a réélu la deuxième fois. Donc la question qui m'intéresse beaucoup, c'est on a un grave problème en France de formation des élites, et je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça l'est, que toutes les grandes écoles, HEC, Sciences Po, Polytechnique et tout ça, viennent de tous les 90% des élèves viennent de 60 jardins d'enfants à Paris.
Ouais. Mais d'ailleurs, le
Donc
voyez,
on a une vraie, on a
l'école
une
alsacienne de.
l'école d'Alsace, etc. Donc on a une vraie endogamie en France, où dans le fond il y a allez, 5 000 familles, peut-être, qui gouvernent le pays et qui gouvernent les médias, etc. Mais quand ils le gouvernaient relativement bien, si vous voulez, qu'on avait des Guillaumas ou des gens comme ça, on se disait, bon, ben, au moins il
Des
a
gens de
l'intérêt d'être.
passe-toi,
Oui, des gens,
des.
des gens qui. Tandis que là, on a l'impression que c'est la première fois dans l'histoire de France que vraiment la classe de ce que j'appelais les moines soldats est complètement corrompue.
Non, mais c'est le. En fait, c'est.
C'est ce qui est étonnant, que la classe dirigeante en France, les moines légistes de Philippe le Bel, soient corrompus.
Le drame, moi, c'est un député dont vous vous rappelez peut-être l'existence, qui s'appelle Joachim Sonneforger.
Oui.
Alors bon, c'était avant
Il était fou comme un lapin,
qu'il devienne
celui-là.
fou, voilà. C'était avant, en tout cas, qu'il change d'identité de genre, qu'il devienne une femme, et que voilà. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui a évidemment une, on va dire des capacités cognitives assez limitées en ce moment. Mais moi, je me rappelle de Joachim Sonneforger en 2017, élu à la base radiologue en Suisse, élu député des Français de l'étranger, donc
Parce
dans
qu'il
cette
était coréen à
circonscription.
l'origine.
Il était d'origine coréenne adoptée, donc il était radiologue en Suisse, et depuis élu député, il venant lui-même du Parti socialiste. Et quand on parlait justement de la jeune génération macroniste, me disait, mais en fait, ce qu'il faut savoir avec tous ces députés macronistes de 2017, c'est que la plupart d'entre eux sont des collaborateurs parlementaires de collaborateurs parlementaires. C'est-à-dire que, si vous voulez, Emmanuel Macron, ça a été un petit peu l'arnaque, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver
La
et de dire,
société civile,
oui.
c'était rien du tout.
Si, alors il y avait de la société civile, et c'était bien ça le problème. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est retrouvé en 2017 avec une écrasante majorité à l'Assemblée nationale.
Oui.
Ça, pour le coup, bravo. Enfin,
Que les
bien
Français lui avaient
joué.
donné pour qu'il puisse
Que les
gouverner.
Français ont donné, à peu près 350 députés, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais 350 députés, donc une majorité très confortable avec un coussin majoritaire, 320 très exactement. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il a fallu gouverner, et que le gouvernement envoie des projets de loi à l'Assemblée nationale, eh ben, on s'est aperçu qu'en fait, en réalité, un tiers d'entre eux, c'était des socialistes, qu'un tiers d'entre eux, c'était des LR, et qu'un tiers d'entre eux, c'était de la société civile, qui ont cru au projet, à qui on a vendu tout simplement une nouvelle façon de gouverner, hors du clivage gauche-droite, etc. Sauf que quand vous demandez à des anciens socialistes de voter une loi censée être restrictive vis-à-vis de l'immigration, ben vous avez les anciens socialistes, si c'est hors de question, vous avez les anciens LR qui disent quand même ça va pas assez loin, et vous avez ceux de la société civile, ben vous avez la moitié qui est plutôt pour, la moitié qui est plutôt contre, d'ailleurs qui s'est jamais posé la question de quelle politique migratoire mettre en place une fois qu'on sera au pouvoir. Et du coup, vous vous retrouvez au fur et à mesure avec une majorité absolue qui se délite. Et je me sens qu'Emmanuel Macron a perdu quelque chose comme 80 députés en 5 ans. 80 députés qui, au fur et à mesure, sont partis parce qu'ils sont aperçus qu'en réalité, bah, il n'y avait pas de projet macroniste. Il y avait une gouvernance à court terme qui obéissait soit à l'agenda personnel, soit on va dire à un agenda européen, et qui,
Et
au
c'est
final,
là,
n'en donnait
en
rien.
principe, où des choses comme, je sais pas, le Conseil d'État, voire la Cour constitutionnelle, à laquelle je suis tout à fait opposé, mais enfin, auraient pu. Donc, le problème qu'on a en France, c'est si on a élu, allez, un fou, comment il s'appelait le roi de France qui était fou,
Charles VI.
Charles VI, oui. Donc, on a élu Charles VI, pas de peau, il a un coup de folie dans la forêt, là, Et après ça, on ne peut plus s'en débarrasser,
Le
quoi.
problème de la constitution de la Ve République, alors encore une fois, je ne suis pas constitutionnaliste, bien évidemment, mais à mon sens, le problème de la Ve République, de la
Mais vous êtes
constitution de la Ve,
citoyen.
effectivement, mais c'est qu'elle a été pensée comme quelque chose qui permettait, dans tous les cas, la continuité du pouvoir. Envers et contre tous. En fait, ça a été pensé comme quelque chose qui garantissait la continuité du pouvoir, mais qui, effectivement, dans la mesure où c'était quelque chose qui était quand même conçu par et pour le général de Gaulle, je pense que l'hypothèse qu'on élise un jour la mauvaise personne qui ne soit vraiment pas compétente et pas faite pour cela, eh bien, en fait, on n'est aucun véritable moyen constitutionnel de le dégager. Il y a toujours évidemment la procédure de destitution, mais le problème, quand vous êtes une force politique que vous aspirez à gouverner, et qu'en plus, lorsque vous êtes dans une situation où on a une espèce de menace de chaos et de
Mais si on
fracture venant de
devait
la gauche,
destituer les gens simplement parce qu'ils sont incompétents, il n'y aurait plus personne. Nulle part.
C'est aussi ça le problème, effectivement. Non, mais c'est pour le remplacer par qui? Et surtout, c'est derrière, c'est vous-même, vous-même passez pour un agent du chaos et vous-même passez pour quelqu'un qui, au fond, n'est plus dans le champ républicain. Vous savez, maintenant, grâce à l'extrême centre, on distribue les bonnes cartes et les mauvaises cartes de
Vous avez vu ce
fréquentabilité.
film où il y avait cet acteur-là? C'était, on lui disait, il jouait le rôle d'un médecin et on lui disait. Non, non, ce matelas, il est juste, le médecin, il est juste bête. Et il y a le flic qui dit, mais il faudrait faire des bâtiments, des immeubles pour ceux qui sont bêtes. Et il
Ouais.
dit, vous imaginez
La taille des bâtiments.
le
C'est dans Tais-toi avec Gérard Depardieu et Jean
Voilà,
Reno,
c'est ça.
absolument.
C'était
Et
très
le
bien.
psychiatre qui est joué par André Dussolier,
André
absolument. Très grand film pour
Dussolier, très
commencer.
grand travail. Là, quand il dit, ah oui, non, mais il faut vous imaginer la taille des bâtiments, s'il fallait mettre tous les gens bêtes. Mais donc, vous avez ça, donc c'est un. Dans le fond, quand vous regardez la Constitution américaine, qui est un truc qui est intéressant, c'est que la Constitution américaine s'est faite sur l'idée que l'homme était mauvais, dans son essence.
Oui, bien sûr.
Enfin, qu'il pouvait être mauvais. Donc il fallait surtout mettre des contre-pouvoirs partout, que les trois pouvoirs soient égaux, qu'ils puissent s'annuler, pour si jamais on élisait un crétin, ce qui est arrivé assez fréquemment dans l'histoire américaine quand même,
On peut pas leur enlever ça.
on ne peut pas leur enlever ça, ben, il était bloqué dans tous les sens, donc il ne pouvait pas faire grand-chose. Très bien. Nous, on a fait une constitution en pensant qu'on aurait toujours un homme providentiel qui serait capable de prendre les bonnes décisions.
Oui.
Mais maintenant, on a élu, ça fait un certain nombre de.
Mais en fait, la Constitution a été conçue pour dépasser les guerres de partis et les conflits de partis, mais qui était un peu l'obsession du général de Gaulle à la base de toute façon. C'était sa vision d'ailleurs du président de la République. C'est un homme au-dessus des partis. Et c'est là où je trouve qu'Emmanuel Macron, il y a une escroquerie effectivement dans le personnage, c'est que lorsqu'il s'est lancé en 2016, il y avait ce message-là, le côté je vous ai compris, je ne suis ni Dieu. D'ailleurs, il était ministre de François Hollande, mais il s'est empressé d'expliquer en sortant du Puy du Fou, vous savez, je ne suis pas socialiste et en faisant une espèce
Il était très copain avec Villiers à
d'apologie de la
l'époque.
monarchie, absolument. D'ailleurs, Philippe de Villiers s'en mord encore les doigts aujourd'hui, mais il avait fait une espèce d'apologie de la monarchie. Donc, pour dire, regardez, je suis quand même un petit peu de droite. Il va au fête joannique d'Orléans où il fait un vibrant hommage à Jeanne d'Arc. Enfin, et il va expliquer aussi, vous savez, je suis comme issu du Parti Socialiste, j'ai comme une fibre sociale, etc. Il y avait ce côté, vous savez, je ne suis hors des partis finalement. D'ailleurs, je crée mon truc, qui a changé d'ailleurs 8 fois de nom. Ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait La République en Marche, La République en Marche, etc. Et il y avait, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché, si vous voulez, Emmanuel Macron chez les gens, c'est qu'il y avait cette espèce un peu de discours de vérité, en tout cas, cet état de fait de l'épuisement total du clivage gauche-droite, on va dire, et de l'incompétence de la force des forces politiques, parce qu'on a quand même vu,
Et c'est là où on nous a sorti la carte qui tue, c'est la carte de la compétence.
Oui.
Ils
Non, mais
avaient
bien
dit,
sûr.
regardez, en plus, je
Le
suis
Mozart de la finance, quoi,
le
en fait,
Mozart de la
ouais.
finance. Alors moi, personnellement, je suis dans la finance. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là, qui avait une vague fonction commerciale chez Rothschild. Enfin,
On ne sait pas d'où vient cette expression, d'ailleurs, du Mozart de la finance. Enfin,
je sais pas quel est le crétin qui a inventé
je sais
ça.
pas qui l'a sorti, d'ailleurs.
Parce que. Ah! Il y avait un type qui spilait comme un âne dans les années 80, qui s'appelait le Mozart, qu'on avait appelé le Mozart de la finance, là, qui faisait, je retrouvais
Donc
son nom.
c'était pas Bernard Madoff, ça.
Non, c'était pas, mais en fait, lui, c'est tout à fait, hein. Vous savez, la finance, c'est un truc assez curieux, c'est que, pour survivre dans la finance, il faut savoir prendre des coups, hein. Et donc, quel a été le musicien le plus vieux qui ait vécu, si, je sais pas. Il y en a bien un ou deux qui ont dû être centenaires, on entre là.
Oui, sans
Donc,
doute.
ceux qui ont survécu en étant dans la finance, c'est ceux qui survivent qui sont les meilleurs, quoi. C'est
Ouais, c'est sans doute un peu de ça,
parce
oui.
qu'il y a, y a.
Contrairement aux peintres, c'est plutôt l'inverse. Plus on meurt jeune, plus on est célèbre vite.
Donc, Mozart de la finance, il n'y connaissait rien, la finance. D'ailleurs, il n'a jamais rien connu à la finance ni à l'économie. Je crois qu'il avait été collé 2 ou 3 fois à Normale Sup, donc c'était pas un type. C'est ça qui m'étonne le plus dans toute cette histoire, c'est qu'un type qui a été collé à Normale Sup. Soit prise dans l'inspection des finances, parce qu'en pressant l'inspection des finances, ils se veulent les plus intelligents. Donc ils prennent d'un gars qui a été collé deux ou trois fois dans Malsup, j'en suis resté comme de ronflant, quoi, ça me paraissait,
Mais
mais...
parce que je parle, parce qu'il y a peut-être aussi le sens du réseau, il y a énormément de choses. Ouais, encore une fois, moi,
Mais
c'est pas tant.
le réseau, vous rigolez, le réseau le
Mais
plus
non, non, mais
important,
vous avez raison, en tout cas,
c'est
vous.
celui de l'inspecteur des finances. Ils ne font pas prendre un type qui a été collé dans
Mais en tout
Malsup,
cas, non, mais
ça
vous
n'existe
avez
pas.
raison de vous poser la question de d'où est-ce qu'il vient. Mais
Et
moi, j'ai.
pourquoi tous ces trucs qui s'abattent devant lui, qui pas, qui lui a fait le chemin? Et pourquoi?
Bah c'est la grande question. Moi, tout ce qu'on peut
Est-ce qu'on le
voir.
saura un jour?
Bah peut-être, je pense que le travail sera fait. Moi, par contre, ce qui m'a envoyé, par exemple, parmi les sujets qui m'ont beaucoup intéressé, c'est par exemple l'affaire Alstom.
Oui?
L'affaire Alstom, c'est quand même incroyable. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant
Quand vous
des
étiez
années,
quand vous écoutez Montebourg, vous vous dites, mais il doit être en prison, quoi.
moi, en tant que spécialiste, on va dire, des questions de politique politicienne, j'avoue que l'affaire Alstom, j'avais un peu laissé ça de côté en me disant, oh, c'est un peu technique, ça a l'air tout ça a l'air bien compliqué. En réalité, c'est une simplicité absolument enfantine. Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, qui a averti qu'Alstom veut céder sa branche de nucléaire là aux Américains. Il commande un rapport. Contrairement à ce que l'exige la loi, il ne met pas Bercy au courant. Effectivement, le ministre de l'économie à l'époque, c'est Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, d'ailleurs, qui a expliqué aux députés qu'il n'avait jamais été mis au courant de l'existence de ce rapport. Donc, Emmanuel Macron demande un rapport, il est nommé à Bercy, valide la vente, et derrière, vous avez ce que Olivier Marleix disait, un possible schéma corruptif. Vous avez eu 100 millions à buzz. Alors, une des personnes
Il y a
auditionnées
eu
par cette
800
commission parlait de
millions,
100 millions.
il y a eu 800 millions de commissions diverses et variées qui ont été données au moment de l'affaire d'Alstom.
Voilà, et ce qui est
C'est
fou,
monstrueux.
et parmi tous ces gens qui ont touché des commissions, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans le comité de soutien et parmi les financeurs de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron.
Et qui ont travaillé gratuitement.
Oui, et quand vous avez donc le regretté Olivier Marleix qui parle d'un possible schéma corruptif, quand vous voyez que la justice avance encore à une lenteur absolument désespérante, mais il y a encore des petites mises à jour de temps en temps, on se dit que cette affaire Alstom, en plus d'être le péché originel, si vous voulez, d'Emmanuel Macron,
C'est
ça
comme ça qu'il a
effectivement.
financé sa campagne.
Oui, bah c'est ça. Bah, en tout cas, alors, les campagnes sont toujours plafonnées, et que les dons dans les campagnes sont toujours plafonnés, etc. Je m'en tiens au respect du code électoral. Mais
Tout le monde
après,
sait qu'il est
si vous
respecté.
avez, voilà. Moi,
Il faut
je
demander son avis à Sarkozy sur le sujet, d'ailleurs.
je me mets à l'abri. Je me mets à l'abri de toute poursuite éventuelle. Mais en tout cas, moi, je pense que je cite Olivier Marleix, quand vous sortez de dizaines d'heures
Je l'ai reçu
d'audition.
ici, il était
Oui.
très bien, cet homme.
Mais honnêtement, il manque énormément à l'Assemblée nationale et objectivement, son travail sur la commission Alstom, il est, je lui fais pas offense parce que je trouve qu'il fait un travail formidable, mais elle est sans commune mesure, par exemple, avec le travail que fait Charles Laloncle. C'est, si vous voulez, Alstom, on touche vraiment justement au cœur de ce que vous dénoncez tout à l'heure, quoi. C'est une espèce de collusion absolument incroyable. Mais quand vous êtes au point, vous êtes secrétaire général adjoint de l'Élysée, vous êtes quand même une des personnes les plus importantes de l'État, où vous cachez volontairement un rapport sur une vente que vous allez ensuite valider quand vous êtes à Bercy. Et d'ailleurs, cette branche d'Alstom que vous allez racheter une fois président de la République à un prix totalement délirant, alors même que les brevets sont déjà partis dans la nature pour sauvegarder la souveraineté française. Enfin, ce type qui est président de la République, quoi.
Il les a rachetés, je crois qu'ils avaient vendu à 200 les turbines Arabelle, ils les avaient vendus à 200 millions, ils les ont rachetés à 800 ou un truc comme ça.
Mais c'est ça, il y a un vrai complice, évidemment, tous les brevets qui ont eu le temps de se barrer. Enfin,
Tout
je
le
veux
temps
dire,
se barre, c'est très bien.
c'est
Et
fin.
c'était les brevets Arabelle, c'est ce qui contrôlait toute notre force de frappe. Donc maintenant, les Américains sont parfaitement courants de l'endroit où sont nos sous-marins, quoi.
En tout cas, ça démontre la conception qu'il a du gouvernement et de l'intérêt général. Enfin, c'est quand même extrêmement, extrêmement inquiétant,
Mais
quoi.
oui, c'est.
Et ce qui est fou, c'est que Alstom, c'est vrai qu'après avoir lu, après avoir beaucoup lu sur cette affaire, après avoir épluché un petit peu les rapports de commission, etc., déjà, je m'en suis voulu de pas y être plongé avant, et surtout de me dire, mais ce qui est fou, c'est que plus personne n'en parle.
Mais ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne le plus, si vous voulez, c'est que Olivier Marleix avait donc déposé un dossier auprès d'un juge d'instruction qui n'a toujours pas instruit.
Toujours pas.
Et ça me rappelle fâcheusement l'affaire du jardin de l'Observatoire où Mitterrand avait été pris en train de faire
un fou attentat.
Un faux attentat, etc. Et qui avait été confié à un juge d'instruction qui n'a jamais instruit. Et ensuite, c'est tombé dans l'eau. Et ce juge d'instruction a ensuite été nommé à
Donc, on
Monaco.
a les affaires du Corral et compagnie, enfin
Donc, vous
des
voyez,
enquêtes qui n'ont jamais eu lieu.
là aussi, ça pose un autre problème. C'est. Il semble qu'il y ait une justice chez nous pour les puissants et une justice pour les pas trop puissants. Quand je vois cette bonne. Comment elle s'appelait, celle qui était la patronne qui achetait des mines de Niger au Niger d'uranium et où il n'y avait pas d'uranium dedans, qu'elle a payé 4 milliards et que c'était son mari qui lui avait présenté, Monsieur Frick, Anne Lauvergeon.
Ouais.
Si vous voulez, Anne Lauvergeon, il y a une escroquerie de 4 milliards, ce qui n'est pas rien, quoi.
Mais
Il y a
d'ailleurs.
toujours, donc il semble que maintenant se soit développé en France une espèce de classe de gens qui sont intouchables.
En tout cas, enfin, si le but d'Emmanuel Macron, c'était d'en finir avec la vieille politique et de dire on va proposer une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle, c'est un peu dans la suite de la fameuse République exemplaire de François Hollande, qui juste après avoir proclamé ça, nommé Ségolène Royal au gouvernement d'ailleurs, mais il y avait ça, et en fait, et puis on s'est aperçu très rapidement que non seulement c'était pas mieux qu'avant, mais qu'en plus c'était pire, oui. Enfin, et que et à partir du moment où la force d'Emmanuel Macron c'est le réseau, à partir du moment où les deux hommes forts que vous débauchez au Parti Socialiste et chez à l'UMP, c'est Thierry Soler et Richard Ferrand, qui déjà détiennent tous les deux le record de mise en examen. D'ailleurs, Richard Ferrand n'a jamais été jugé sur les mutuelles de Bretagne, hein.
Ça fait partie de ces gens qui sont intouchables.
Non.
On l'a mis ensuite dans la présidence du Conseil constitutionnel.
Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où les deux personnalités que vous allez récupérer principales chez LR et OPS, ce sont deux personnalités connues avant tout pour leur réseau et pour leur
corruptivité.
Et pour leur corruptivité, visiblement, en tout cas, tant que la justice n'est pas prononcée, mais et leur entre-gens.
Ça ne passera jamais, la justice.
Oui, de toute façon. Alors, sur Thierry Soler, je crois qu'il en a 13 mises en examen, par exemple. Et voilà, après, c'est quelqu'un qui est très pivot dans la vie politique, qui fait se rencontrer les gens, qui a un entre-gens incroyable, etc. Mais quand les deux personnalités que vous récupérez, en fait, ce sont des personnalités comme ça, et ben en fait, on voit bien quelle a été l'urgence pour Emmanuel Macron, c'était de débaucher un maximum de personnes pour se créer une force politique, arriver, garder le pouvoir. Sauf qu'on a vu qu'au fur et à mesure, ça s'est délité. Enfin, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, il est passé de 320 députés à 40.
Oui, alors je veux bien, mais ce qui était normalement, dans une perspective gaulliste, le simple fait qu'il n'ait plus la majorité aurait dû le contraindre à démissionner, ça me paraît évident.
Il n'a jamais eu le souci de sa légitimité, Emmanuel Macron.
C'est un mot qu'il ne comprend pas. C'est comme souveraineté, il ne comprend pas non plus. Souveraineté et légitimité, il ne sait pas ce que ça veut dire.
Non. Souveraineté, il a donné l'impression de l'avoir découvert récemment. Mais, enfin.
Non. Si vous voulez, quand il parle de souveraineté partagée, c'est comme de dire je suis à moitié enceinte, quoi. Vous savez, la souveraineté, ça ne se partage pas. C'est par définition. C'est impartageable.
Il y a sûrement un petit peu de ça.
Donc, si vous voulez, vous avez un personnage très étrange qui s'est introduit et qui a bénéficié de toutes les faiblesses de notre système politique et judiciaire, toutes les corruptions qui existaient depuis très longtemps, et qui en a fait, qui a tout fait pour, dans le fond, enrichir qui ? Est-ce qu'il s'est enrichi lui-même ?
Ça, honnêtement, j'ai aucune réponse à vous apporter là-dessus, parce que ça fait partie des choses, des informations qu'on n'a pas. Mais par contre, encore une fois, ce qui est dingue, c'est
qu'il enrichit pas mal de gens.
Il enrichit pas mal de gens, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas enrichi les Français. Enfin, je veux dire, vous voyez, sur le bilan global d'Emmanuel Macron, il y a une ancienne qui revient très souvent dans la bouche de ses derniers soutiens. C'est oui, mais regardez, on a créé 2,5 millions d'emplois.
C'est du pipeau.
Ça, par exemple, c'est incroyable. Alors, les 2,5 millions, en admettant qu'ils existent, il y a 600 000 emplois uberisés. Et donc, des auto-entrepreneurs. Le revenu moyen d'un entrepreneur en France est 530 euros.
Avec ça, vous ne vivez pas très bien.
Ça, vous enrichissez pas, c'est pas grand monde. 600 000, c'est les alternants. Alors, système de l'alternance, ça permet aux jeunes d'accéder plus facilement au marché de l'emploi. Je vais dire pourquoi pas, mais ça coûte des milliards par an. Mais on va dire, allez, vas-y, admettons. Ça fait 1,2 million. Il avait promis de diviser par je ne sais plus combien de nombre de fonctionnaires, 200 000 fonctionnaires supplémentaires. Et donc, il resterait environ un petit million d'emplois. Le problème de ce petit million d'emplois créés, soi-disant créés, c'est que ça veut dire que dans ce cas-là, mathématiquement, on crée davantage de richesses. Ouais. Le PIB augmente, l'indice de développement augmente. Or, tout est en baisse. Ce qui veut dire
on est passé en dessous de la moyenne européenne.
C'est-à-dire que je crois que c'est, je ne sais plus quel économiste disait, à la fin du prochain quinquennat, si ça continue comme ça, les Polonais et les Français auront le même niveau de vie.
Oui.
Les Polonais, ils sortent de 50 ans du RSS, quoi.
Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu du pot, là. On va peut-être rentrer dans les 50 ans, donc il va falloir sortir, puisque c'est le même système. Alors,
et ce que je veux dire, c'est que, pardon, pour finir sur les indices qu'on peut trouver, il nous a expliqué, je vais relancer l'industrie d'ici 2035, 15% du PIB, ce sera industriel. On est à l'indice de production industrielle aujourd'hui à moins 0,6%. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une croissance molle ou on est en croissance négative.
Mais vous savez, j'ai fait un petit dossier que je vais envoyer à ceux qui nous écoutent, qui s'appelait « Comment réussir sa désindustrialisation », si ça amuse les gens qui nous écoutent.
Absolument.
Je peux. Et je vous montrerai toutes les mesures qui ont été prises par cette classe dirigeante française depuis 30-35 ans, depuis 1974, littéralement, donc ça fait longtemps. C'est pas difficile. Chaque fois qu'il y a un choc exogène, le prix du pétrole, n'importe quoi, il tape toujours sur le système productif pour payer. Alors que dans les autres pays, tout le monde paye. C'est-à-dire que donc la rentabilité du capital investi baisse en France. Et aujourd'hui, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises est à peu près la moitié de ce qu'elle était en Allemagne ou en Angleterre. Donc plus personne ne remettra jamais un rond dans l'industrie en France, puisque c'est moitié moins rentable que dans le pays d'à côté.
Et c'est ça.
Et donc, mais ils l'ont fait volontairement. Et j'ai entendu encore le ministre du Budget la semaine dernière qui disait, de toute façon, les Français n'ont pas à se faire de soucis, c'est les entreprises qui vont payer. Mais crétin.
C'est dingue, c'est pas cher, c'est l'État qui paye.
C'est pas cher,
ce genre de logique absolument incroyable. Donc, comme quand on parlait de l'école gratuite, du train gratuit, du métro gratuit, du bus gratuit. C'est...
Vous savez ce que disait Milton Friedman, qui était à Miami, il disait, il y a un roi qui veut apprendre ce que c'est l'économie, parce qu'il a entendu dire que c'est important, donc il fait venir un gars qui arrive avec 35 bouquins et tout. Bon, il le fait mettre à mort, parce que ça l'intéresse pas. Il y en a un deuxième qui arrive avec votre livre, là, pour lui expliquer ce que c'était que l'économie. Bon, il le fait pendre, mais... parce qu'il est... Et le troisième, il arrive avec les mains dans les poches, et le roi lui demande qu'est-ce que c'est l'économie. Oh, il dit, sire, c'est pas dans les déficits, rien n'est gratuit.
Ben oui. Non, mais c'est ça. C'est le fameux si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait.
Donc écoutez, c'est un très bon livre que j'ai lu et c'est un bon livre aussi à garder dans la bibliothèque parce que vous avez fait un très bon travail de recollection dans tous les grands domaines des différentes âneries qui ont été faites. Donc vous vous dites quand même, avoir choisi un gars qui s'est trompé à peu près sur tout constamment depuis 10 ou 14 ans, on a choisi un gars exceptionnel. Hein.
Mais vraiment, alors en plus, en toute transparence, j'ai cherché des points positifs. Vraiment, j'en ai cherché, je me suis dit, c'est pas possible. Eh bien, quelque chose qui a fonctionné.
Rien.
Tout est dans le rouge. Il n'y a pas un truc qui fonctionne bien en France, à part si les retraités vous diront que c'est pas pire qu'avant et ce sera sûrement mieux et que voilà.
Les écoles privées.
Les écoles privées se portent plutôt bien, encore que c'est compliqué en ce moment d'être une école catholique en France.
Je sais, moi j'avais mes petites filles qui étaient à la Providence et à la Tour. Là aussi, il y a des tentatives d'en prendre le contrôle. Donc vous avez un personnage fascinant qui est l'homme qui détruit. L'homme qui n'a, d'ailleurs, il n'a pas d'enfant,
non.
Il n'a pas de futur, il n'a pas de vision. Et il n'a pas de compétences.
Mais c'est le point commun qu'il a avec Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. La destruction créatrice. Ce qui est rigolo, c'est qu'il...
Il
crée rien, justement. Et c'est bien ça le problème. La destruction créatrice, en réalité, c'est du trotskisme. C'est ça qui est fou. C'est la matrice de Léon Trotsky, la destruction créatrice. Vous avez un type qui en 2017, expliquait qu'il n'y a pas de culture française, qu'il y a des Maliens, des Algériens, des... Et vous avez 10 ans après, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui arrive tout bonnement avec la créolisation heureuse et qui reprend les vieilles thématiques du début de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, j'insiste sur un point, c'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est que d'Emmanuel Macron, il ne restera strictement rien. Et
du mépris.
Oui, c'est ça. Alors après lui, le chaos peut-être. En tout cas, la terre brûlée, c'est certain.
Mais donc c'est bon, c'est pas d'une gaieté folle, mais.
En tout cas, si vous recevez un ami macroniste à la maison et que vous avez besoin d'arguments, même pas d'arguments d'ailleurs politiques, mais vraiment des faits, vraiment j'insiste.
Oui, c'est des faits.
Voilà, il y a des faits. Tout est factuel. Il y a aucun jugement dans ce livre.
C'est un peu, si vous voulez, comme les Gamelins, si on l'avait nommé pour diriger le débarquement Normandie. Quoi, voyez, c'est un peu la même chose. Nous, on a été chercher un vrai incompétent, un type totalement incompétent, et qui avait passé toutes les signes hiérarchiques, en quelque sorte, de la plus grande compétence. En France, on pense qu'un gars qui a fait des diplômes est intelligent. Et on pense en plus que comme il a fait des diplômes et qu'il est intelligent, il prendra les bonnes décisions. Il n'y a aucun rapport entre les trois éléments, si vous voulez.
Ayant été fâché avec les études supérieures toute ma vie, c'est pas moi qui vais vous contredire sur ce point.
Moi, j'ai fait plein d'études supérieures et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me rendait capable de prendre des décisions. Parce que quand il fallait prendre des décisions, les études, c'était pas bien utile. Non, par contre, savoir jouer au rugby et avoir ramassé des claques, là, c'est très, très, très utile.
Je suis assez d'accord avec cette philosophie de vie.
Le capitaine d'une équipe de rugby est beaucoup plus capable de prendre des décisions qu'un type qui a fait l'inspection des finances.
Monsieur Dupont, si vous nous entendez.
Il en a pris de mauvaises le dimanche dernier, d'ailleurs.
Pas faux.
J'ai été très fâché. Il a joué contre les Irlandais comme un cochon. Il a continué à jouer défensif alors qu'il fallait jouer offensif. Ça m'a agacé.
C'est l'esprit français. On manque de combativité offensive en ce moment.
Oui. Ben, on pense qu'on est... On va les avoir, là. Ben non, on les a pas. Le rugby, vous savez, c'est ce que je dis toujours et on terminera là-dessus. C'est le seul sport évangélique parce qu'il vaut mieux donner que recevoir.
Amen.
Merci beaucoup.
Merci, Charlie.